Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous. Variation autour de l'actualité ce midi avant de laisser place à deux maestros. Du marché de l'art contemporain à l'ouverture 7 sur 7 des musées, trois invités pour nous éclairer sur quatre questions du moment. Après 13h30, deuxième service avec l'entretien maestro de l'acteur Michael Lonsdale qui illumine le film de la réalisatrice Laza Fazer en salle depuis mercredi dernier. Un long métrage qui rend hommage au cinéma d'auteur et à l'un des maîtres du genre, le cinéaste Éric Rohmer. Puis rencontre avec le pianiste Vincent Koch du trio Wanderer autour des compositeurs qui ont nourri son répertoire et des chefs d'orchestre qui ont croisé sa route musicale. Sans oublier les habitués de cette grande table d'été, plus que jamais ils méritent cette dénomination puisqu'ils vous accompagneront jusqu'à la fin août. Le live de Mathieu Conquet, trio en sol majeur d'Ernest Chausson par le trio Élégiaque. Et à première vue, quelle œuvre est à l'origine de ses affinités artistiques? L'historien de l'art Bernard Blisten, directeur du Musée national d'art moderne Pompidou, répond à Aude Lavigne. La petite équipe de la Grande Table d'été se réjouit enfin d'être avec vous ce midi encore, car à 14h, les juilletistes feront place aux Aoussiens. Je rends mon tablier à Martin Kénéen, qui vous accompagnera jusqu'au retour de Caroline Brouet au premier jour de septembre. Bienvenue. Et on ouvre cette grande table d'été avec un tour de table de l'actualité culturelle. Et nos invités, Fabrice Bousteau tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Directeur de Beaux-Arts Magazine, le numéro d'août vient de sortir en une, l'art en vacances, artiste globetrotteur, carte postale d'artiste, les plus beaux voyages artis, à lire sur place pour se dépayser ou en voyage pour s'éclairer. Arnaud Oliveux, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes commissaire priseur et expert en art contemporain chez Arcurial, maison de vente aux enchères. Enfin, Jean-Michel Tobelem est avec nous par téléphone. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Universitaire, directeur de l'Institut d'études et de recherche Option Culture, auteur chez Armand Collin notamment du Nouvel Âge des musées. On commence.
Le musée du Louvre attire de plus en plus de visiteurs et pour eux, plus question de se casser le nez devant une porte fermée. Ils pourront bientôt plonger leurs yeux 7 jours sur 7 dans le regard troublant de la Joconde. Au musée Jacquemart-André, ouvert 7 jours sur 7, l'expérience est concluante.
Il n'y a que des avantages, j'ai envie de dire, parce qu'en étant ouvert 7 jours sur 7, on accueille un nombre de visiteurs beaucoup plus important qu'en étant fermé un jour par semaine. Et on offre ainsi une qualité de service très importante pour les touristes et le public français également.
On commence avec vous et le projet du ministère de la Culture d'ouvrir certains musées, Jean-Michel Tobelem, en l'espèce le Louvre, Orsay et le château de Versailles, 7 jours sur 7. La rue de Valois en est encore au stade de la réflexion, précise-t-on, mais l'enjeu est à la fois quoi? Culturel et financier, Jean-Michel Tobelem?
Bien entendu, les deux à la fois, comme vous le soulignez. Dans l'idéal, et si on se place du point de vue des citoyens, il est intéressant de pouvoir accéder aux musées aussi largement que possible. Mais c'est la même réflexion que dans les bibliothèques. Évidemment, on aimerait que les bibliothèques soient ouvertes le soir et le dimanche quand ce n'est pas le cas. Mais ça pose des problèmes pratiques. Alors, on sait aussi qu'au-delà de l'idéal, c'est faisable, comme vous l'avez laissé entendre il y a quelques instants, également à l'étranger. Si on pense aux musées qui sont les plus proches des nôtres en termes de musées nationaux, par exemple à Washington, ils sont ouverts également 7 jours sur 7.
Oui, c'est une politique d'ouverture qui est effectivement pratiquée déjà à l'étranger, plutôt avec succès en termes notamment de fréquentation par des grands musées anglais, la Tate Modern, la National Gallery à Washington, ou des musées new-yorkais également, MoMA, Metropolitan, ou encore en Espagne, en Chine. Il y a déjà des musées français aussi qui pratiquent cette politique d'ouverture 7 jours sur 7. On l'entendait à l'instant, mais... certains soulignent l'importance de préserver quand même aussi, Fabrice Bousteau, une journée de repos. Alors non seulement pour le personnel, mais aussi pour les collections, c'est-à-dire un temps pour l'inventaire, un temps pour l'entretien, un temps pour penser le musée, en somme, et la présentation des œuvres.
Ouais, 7 jours sur 7 et pourquoi pas 24 heures sur 24.
Ah, bonne idée.
C'est d'ailleurs Laurent Fabius a dit a indiqué dans un communiqué qu'il fallait aussi réfléchir sérieusement à l'extension des horaires. Est-ce que votre boucher est ouvert 7 jours sur 7? Est-ce que votre librairie est ouverte 7 jours sur 7? Non. Je pense, en tant que rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine et aussi commissaire d'exposition, et pour avoir fait une exposition notamment au Centre Pompidou, qu'un musée doit avoir un temps de jachère pour justement assurer le bon fonctionnement du musée en termes de sécurité, en termes de sécurité des œuvres, en termes de sécurité des publics. Le temps de jachère, il est essentiel. Les musées dont on parle, qui sont ouverts à l'étranger, je rappelle qu'aux États-Unis, à New York, le MoMA est ouvert 7 jours sur 7, mais le Whitney et, d'autres, et beaucoup d'autres musées sont fermés 2 jours par semaine. Alors que les musées, les grands musées français ne ferment pas, comme le Louvre, 2 jours par semaine, mais ferment 1 jour par semaine, d'accord. Qu'on augmente les horaires d'ouverture, j'y suis favorable. Regardons l'exemple du Palais de Tokyo. Aujourd'hui, les rythmes de vie ont changé. Quand vous vous rendez compte que le Palais de Tokyo est ouvert jusqu'à minuit, que le Centre Pompidou, la dernière entrée est à 21h et que l'ouverture est aujourd'hui à 11h, on pourrait ouvrir les musées pendant plus longtemps. Mais cette jachère, elle est fondamentale. J'ajoute que ça m'étonne aujourd'hui, dans cette impensée de ministère de la Culture, que la seule pensée devienne une pensée quantitative. La pensée de la gauche de la culture aujourd'hui, c'est une pensée quantitative et non pas qualitative.
Parce que de quantitatif, il est aussi question ici. Il y a un afflux de touristes vers ces grandes institutions que sont aujourd'hui le Louvre, le musée d'Orsay ou encore le château de Versailles. La demande est extrêmement forte. Oui. C'est aussi peut-être confortable pour les visiteurs de pouvoir, à un moment ou à un autre, répartir les entrées, les visites sur un temps plus long et pouvoir profiter des collections plus sereinement.
Augmentons les horaires, mais augmentons aussi l'offre. Je suis davantage partisan que les grands musées type le Louvre, le château de Versailles, c'est-à-dire les blockbusters, ce qui attire l'essentiel des touristes et l'essentiel des visiteurs, soient fermés un jour par semaine et que d'autres musées ne soient pas fermés ce même jour pour qu'on les fasse découvrir. Je suis favorable également, contrairement aujourd'hui au gouvernement, à la création de nouveaux musées. Quand Jacques Lang, dans les pages débat du Monde, invite à créer un musée des grands formats à l'image de la DIA Beacon aux États-Unis, c'est-à-dire un musée destiné à des œuvres monumentales gigantesques. Contrairement à ce que l'on dit, l'offre culturelle doit continuer et elle doit continuer pas simplement à Paris. Je pense qu'on doit lancer d'urgence, non pas un plan de pas un plan en banlieue pour permettre de mettre des sous-équipements culturels en banlieue, mais on doit créer des immenses équipements culturels à banlieue pour revenir à ce qui s'est passé au début du XXe siècle où le Grand Paris dont on parle était actif puisque les artistes vivaient en banlieue et il y avait beaucoup d'initiatives. Donc arrêtons cette pensée quantitative et ayons une pensée qualitative. Juste pour finir sur ce point, quand j'entends dire que le Centre Pompidou-Metz, il commence à y avoir des problèmes parce que la fréquentation chute et que maintenant il va falloir faire des expositions populaires ou populistes, je pense que ce qu'on doit évaluer aujourd'hui dans les musées, c'est la qualité des expositions. J'aimerais que l'on parle de la qualité des expositions aujourd'hui en France de la part des grandes institutions. C'est une vraie question, à mon avis, plus importante que la gestion permanente des flux de public.
Arnaud Oliveux.
J'acquiesce complètement avec Fabrice Bousteau dans le même sens. Effectivement, la qualité des expositions est essentielle et certaines institutions, effectivement, on a l'impression qu'elles se dirigent vers plutôt des préoccupations de billetterie et faire le maximum d'entrées. Or, nous, on attend et même nous, sur le second marché, on est très attentifs à des expositions un petit peu plus téméraires et qui manquent parfois dans certaines grandes institutions.
Oui, parce que vous êtes des artistes un peu tous les deux, mais en même temps, il y a des financiers derrière tout ça. Et il faut voir qu'il y a un problème aujourd'hui de financement dans les musées. C'est ce que souligne notamment le rapport d'information d'un sénateur, Yann Gaillard, le sénateur UMP. Un rapport intitulé « Les musées nationaux, quelles ressources pour quelles missions ?» Alors derrière ce point d'interrogation se cache un certain nombre de constats. Paradoxalement, ce rapport constate une fréquentation en hausse pour l'ensemble effectivement des 1220 musées de France, mais des financements en baisse. Le rapport propose quelques outils de bonne gestion. Il insiste sur la nécessité, surtout pour les musées nationaux, de renforcer des ressources propres, de mutualiser certaines dépenses et de rouvrir le débat sur certains avantages tarifaires. Jean-Michel Taubelem.
Oui, les marges de manœuvre dans les musées, elles ont été explorées et on les connaît. Que veut dire explorer les marges de manœuvre tarifaires? S'il s'agit d'augmenter les tarifs, je crois qu'il faut être très prudent parce que n'oublions pas qu'au-delà des aspects de création de ressources pour les institutions, il y a la nécessité d'accueillir le plus grand nombre et là on se dirige vers des zones un petit peu difficiles. La voie du mécénat a été explorée, nous sommes dans une situation de crise qui n'est guère favorable au mécénat, donc il existe des marges de manœuvre mais elles ne sont pas aussi importantes que certains font mine de le croire. Et pour en revenir à la question des flux, je crois qu'il y a un point qui n'a pas été suffisamment souligné jusqu'à présent, c'est celui de la qualité de l'accueil, c'est-à-dire à flux constant. Ce qui est très important, c'est de faire en sorte que les visiteurs soient accueillis dans de bonnes conditions, et ce n'est pas le cas actuellement. Il suffit de passer précisément devant les grands musées pour voir des files d'attente immenses, où les gens attendent soit sous la pluie, soit sous le soleil, ou les deux parfois à la fois, et donc c'est une question importante. Donc la question de l'accueil, la question des conditions même de visite, une fois que vous êtes à l'intérieur du musée, la question de la médiation, c'est-à-dire de l'enrichissement culturel des visiteurs, et puis il ne faut pas oublier encore un dernier point. Supposons qu'on ouvre 7 jours sur 7, quid de la fermeture que l'on constate actuellement, au moment où nous parlons de certaines salles dans les musées? Autrement dit, il ne suffit pas d'ouvrir le musée lui-même 7 jours sur 7, il faut s'assurer que les visiteurs puissent réellement accueillir et dans de bonnes conditions à l'essentiel de ce qui est offert dans le musée lui-même. Vous voyez que donc la question est complexe, elle se gère au plus près des équipes et de l'organisation, donc ce sont surtout des questions de gestion des plannings, de l'organigramme, des ressources humaines. Évidemment, ce n'est pas très glamour, mais c'est à ce niveau-là que les questions doivent se régler, à mon sens.
Fabrice Bousteau de Beaux-Arts Magazine.
Sur les ressources propres, les musées n'ont fait que d'augmenter leurs ressources propres. La seule idéologie encore, elle est quantitative. On demande aux musées de faire mieux avec moins en permanence. C'est dangereux. Je rappelle une chose qui est très dangereuse actuellement. Le budget d'acquisition du Centre Pompidou est à peu près de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est la valeur d'un Murakami. Ce qui va se passer, c'est que si on compare les grandes fondations, par exemple, il n'y a pas de Jeff Koons, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jeff Koons, aucun Jeff Koons dans les collections du Centre Pompidou. Il y en a beaucoup chez M. Pinault, il y en a beaucoup dans la collection d'Arnaud. Qu'est-ce qui va se passer des grands musées français quand on ne leur permet pas aujourd'hui de lutter contre les lois du marché? Aujourd'hui, de vouloir demander aux grands musées, c'est-à-dire au patrimoine national et à ce qui va devenir le patrimoine de notre nation dans les 30 ans ou 40 ans à venir, de continuer à faire des économies, c'est une faute, une erreur politique majeure quand, en parallèle, l'essentiel du budget du ministère de la Culture est dépensé dans le domaine de l'audiovisuel. Je pense aujourd'hui que sur les chaînes de télévision, on peut réussir à diminuer sérieusement une partie de l'argent, diminuer le nombre de chaînes de télévision. Je ne parle pas de la radio, bon,
là,
je ne parle pas de France Culture.
C'est un vaste débat que vous ouvrez. Ben, si,
c'est un vaste débat.
Non,
parce que quand on aborde France Culture et entre guillemets la rentabilité intellectuelle et fabuleuse de France Culture, le nombre d'auditeurs qui monte, la qualité, là, on est content de l'utilisation de l'argent public. Quand on regarde l'utilisation de l'argent public global du ministère de la Culture et qu'on voit la part de l'audiovisuel et la part qui va à la création dans les domaines arts plastiques, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la littérature, on est effrayé.
C'est une répartition qui vous convainc pas. Alors ces grandes œuvres, on pourra notamment aller les voir bientôt à la Fondation Louis Vuitton qui va ouvrir. Ça fera partie de l'actualité de la rentrée au mois d'octobre. En parallèle, la FIAC se tiendra du 23 au 26 au Grand Palais. La réouverture du musée Picasso dont on a parlé en début de semaine avec l'architecte de sa rénovation Jean-François Baudin. Et l'inauguration donc de cette fondation. Vous êtes enthousiaste, Arnaud Oliveux, à l'idée de l'ouverture de ce nouveau lieu de l'art contemporain?
Ah, complètement. Hein. C'est justement, on a besoin aussi de ces grandes initiatives privées dans le cadre du monde institutionnel. Comme disait Fabrice Bousteau, aujourd'hui, la réalité du marché de l'art, du second marché, des grandes ventes aux enchères, va dans un sens de prix de plus en plus important. Et c'est vrai que ce sont ces grands collectionneurs entrepreneurs internationaux et en France, des gens comme Pinault ou Arnault, qui ont aujourd'hui les moyens effectivement d'acquérir des pièces importantes qui déplacent les foules. Et c'est important effectivement à Paris d'avoir aussi l'impact d'une fondation comme celle de Vuitton. On regrette que celle de Pinault n'ait pas été installée en France, ça, c'est aussi un autre débat. En tout cas, c'est important d'avoir cette ouverture au mois d'octobre. Et ça va être certainement une des grandes soirées de la rentrée de la deuxième partie de saison. Enfin.
Autre sujet dans l'actualité.
800 000. 850 000. 900 000. Terminé. 2 100 000. Adjugé.
Merci. Les pages de garde renvoient en fait à des scènes très connues de 70% de sa production avant-guerre. On a Tintin qui sauve Chang, on a Tintin dans la pirogue, Tintin en avion, en voiture. La page de garde est une pièce exceptionnelle, au même titre que la couverture de l'album de 1932 que l'on avait vendu en 2012, 1 330 000 euros. C'est une pièce du même style parmi les 2-3 plus belles pièces du marché en main privée concernant Tintin.
Combien vaut une planche de Bilal ou un original d'Hergé ? Pas grand-chose, il y a encore 30 ans, plus d'un million pour quelques rares originaux aujourd'hui. Que nous disent ces ventes records de la place du 9e art sur le marché de l'art, Arnaud Oliveux ? Je précise que l'extrait de la vente aux enchères qu'on entendait à l'instant, ça remonte à mai dernier.
Ça remonte à mai dernier, donc chez nous, chez Hercurial, sous le marteau de François Tajan. Éric Leroy, qui est un peu aussi un des... qui est notre expert...
Qu'on entendait dans cet extrait.
Qu'on entend dans cet extrait, qui est notre expert en bande dessinée et qui est un des créateurs du marché de la bande dessinée sur les ventes aux enchères, puisqu'il a commencé dans les années 90, à une époque où les planches, effectivement, donc on remonte à une vingtaine d'années, 25 ans, où les planches, finalement, ne valaient pas grand-chose. Et quelques collectionneurs un peu avertis se sont dit, tiens, on va suivre aussi ce marché qui s'est développé aujourd'hui. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Bilal, quelqu'un comme Hergé emporte des records. À chaque vente, en fait, les prix sont dépassés et sont suivis par des collectionneurs qui montent vraiment des fonds importants dans ce domaine.
Et lecteurs, collectionneurs, investisseurs, qui sont les acteurs de ce marché du 9e art ? Est-ce que ce sont les mêmes que pour celui de l'art contemporain ?
Alors, pas vraiment les mêmes. Alors certains sont, on retrouve quelques personnes en commun qui ont un champ d'action assez large, mais sinon c'est souvent des gens qui, des hommes d'affaires notamment, qui ou des financiers qui se passionnent, qui ont grandi aussi avec ce domaine de la bande dessinée, qui lisaient les albums, qui les dévoraient et qui ont eu envie d'acquérir un peu plus tard les pièces originales pour constituer des ensembles importants. Et nous dans nos ventes, c'est vrai qu'on a des collectionneurs très importants, récurrents, qui veulent monter ces collections, éventuellement peut-être un jour les montrer.
Arnaud Oliveux, commissaire-priseur et expert donc en art contemporain chez Hercurial. La bande dessinée a aujourd'hui ses ventes aux enchères, ses galeries, elle s'expose. On pense bien sûr à l'exposition Gottlieb cette année au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Fabrice Bousteau de Beaux-Arts Magazine, vous vouliez réagir.
Oui, depuis que je suis rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine, moi j'ai insufflé une politique régulière où on parle et on fait des hors-séries sur la bande dessinée. Et j'ai toujours estimé que la bande dessinée devait être dans le champ de l'art. Et des beaux-arts. Mais ce que je remarque, que le marché est en train de faire prendre conscience au musée qu'il devrait s'intéresser à la bande dessinée, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en 2015, et il faut imaginer qu'il n'y a pas eu de grande exposition de bande dessinée au Centre Pompidou, qu'il n'y en a pas eu au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, ou très peu, des tout petits...
Il y a une exposition Enki Bilal l'an passé. Hein.
Oui, mais ça commence à peine. Et il y a beaucoup d'expositions thématiques qu'on peut faire sur la bande dessinée. Il y a énormément de choses à imaginer. Et quand vous regardez les grands musées dans le monde, bizarrement, ils sont à la traîne du marché. Et c'est là où ça me fait penser aussi qu'il y a un problème de pensée. Parce que, et toujours ce rapport entre le quantitatif et le qualitatif, il faut faire gaffe, c'est comme pour l'ouverture, la culture française ce n'est pas une culture du Disney, c'est une culture du Duchamp, c'est-à-dire du Duchamp, de Marcel Duchamp, c'est une culture donc aussi de l'exigence, de la pensée. Ne soyons pas à la traîne des cultures anglo-saxonnes, la force de la culture française c'est cette innovation, cette envie d'imaginer en permanence. Donc demandons à nous, à nos musées, aujourd'hui, au lieu de faire la énième exposition Monet, de faire Monet, et je dis n'importe quoi, et Bilal, ou au contraire la bande dessinée japonaise, Monet et le manga. Inventons, on a besoin de souffle d'invention. Et là, le marché nous donne, en fait, bizarrement, des idées.
Alors, signalons quand même, c'est pas un musée privé, mais l'exposition aussi montée par la Fondation Leclerc pour... c'était en début d'année, hein, exposition Métal Hurlant et à suivre, et qui voyage aujourd'hui jusqu'à Angoulême.
Absolument, il est absolument... Michel-Édouard Leclerc est absolument génial, un très grand collectionneur d'art
passionné de bande dessinée.
Et je pense aussi, surtout, à la Fondation Glénat, qui est fabuleuse, qui a fait une exposition, une des plus belles expositions que j'ai vues cette année, qui reliait la notion du monde fantastique dans l'art avec la notion du fantastique dans la bande dessinée. Bravo.
Arnaud Olive.
Et pour rebondir sur ce besoin d'innovation au niveau institutionnel, moi j'ai développé depuis quelques années les ventes d'art urbain, donc dans tout ce qu'on appelle street art, graffiti, qui est également inexistant au niveau, ou pratiquement inexistant au niveau institutionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de collectionneurs suivent cet art. Vous avez en ce moment à New York, au Brooklyn Museum, une exposition d'une jeune artiste qui s'appelle Swoon, qui est très intéressante. On aimerait aussi en France, qu'en relais du marché, on voit des très belles expositions au Centre Pompidou, en tout cas que le Centre Pompidou ou d'autres institutions s'intéressent à ces domaines un petit peu innovants.
Le Palais de Tokyo vient d'un peu.
Et le Palais de Tokyo, il vient, voilà, actuellement, il y a une, avec le projet Lascaux, qui est vraiment extrêmement intéressant sur ce domaine de l'art urbain.
Une vente aux enchères par an chez Arcurial consacrée au street art.
Tout à fait.
Une par an.
En début d'année.
Prochaine, en début d'année prochaine.
Voilà, au mois de janvier, février.
Et les artistes qui commencent à compter dans le street art.
Et des artistes qui commencent à... Voilà, vous avez JR qui maintenant est connu à travers la planète.
Mais
vous avez...
je pense que bizarrement, JR et Banksy, c'est-à-dire les deux grands noms,
figurent
bizarrement, sont entre guillemets issus du street art, mais ils ne sont plus dans le street art.
Ils ne le sont plus aujourd'hui.
Ils sont aujourd'hui totalement dans l'art. Banksy est un perturbateur de tous les systèmes d'art, y compris de marché et d'exposition. Et JR, de la même manière, avec un système différent, populaire mondial, avec plus de 200 000 personnes dans le monde qui... affirme vouloir travailler avec lui dans le monde entier.
Il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est que certains artistes de street art, mais pareil pour les dessinateurs de bande dessinée, commencent à pleurer de voir la main du marché toucher ces secteurs-là de l'art, parce que forcément ça entraîne de la spéculation, et on voit aussi des inégalités, un fossé se créer dans ces milieux-là, non ?
Oui, mais par exemple, il y a une chose qui m'a fasciné récemment encore chez Banksy. Banksy a refusé, interdit à Sotheby's, je crois, de vendre des œuvres parce qu'il a créé un système d'authentification. On avait piqué des pochoirs sur des murs, etc. Il a interdit à Sotheby's, il a dit que ses œuvres que Sotheby's allait vendre sont des fausses. Et en parallèle, un petit centre culturel et social sur lequel il avait peint sur une porte un pochoir, il a autorisé le centre culturel de le vendre pour pouvoir le financer, une sorte de Robin des Bois de l'art. Et c'est là où on est avec des artistes comme Banksy dans une situation fabuleuse. L'invention aussi. On peut, quand on parle de marché, et les règles ne sont pas fixées, et tout le monde le sait, tout est encore à inventer.
Oui, mais qui les fixe, ces règles, hein ?
Eh bien, les artistes peuvent aussi les perturber parfois.
Alors, l'art contemporain, on aime ou on n'aime pas ?
Nous sommes élus depuis quelques mois, on essaye un petit peu de redonner un peu de gaieté à la ville qui était un petit peu lugubre et assez sinistre. Et effectivement, on a repeint le sol de la fontaine en bleu piscine et l'œuf en bleu turquoise. Si l'artiste veut absolument, on lui propose de lui revendre son œuvre, on lui fera même un petit prix.
On ne repeint pas pour faire plus décoratif une œuvre qui appartient au domaine public sans demander l'autorisation à l'artiste. C'est son droit moral et c'est aussi tout simplement le respect de ce qu'est une œuvre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été fait, créé par un artiste et qui a été offert à l'ensemble de la collectivité. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait être vigilant sur les atteintes portées au pilier, au socle de la politique culturelle dans les villes qui seraient gérées par le Front National. Là, on en a malheureusement un triste exemple. On voit bien le mépris dans lequel certains élus du Front National tiennent l'art et la culture.
Voilà, tout d'abord le maire Front National de Hayange en Moselle, puis la ministre socialiste de la Culture. Cette semaine, ils se sont l'un et l'autre exprimés en cause d'une sculpture de l'artiste Alain Mila appartenant à la ville, repeinte pour égayer l'une des places centrales de cette petite commune de Lorraine. Ailleurs, à Luc-en-Provence, dans le Var, Amnésique, un festival de techno annulé suite aux pressions, disent les organisateurs du nouveau maire Front National. À Béziers, ville de Robert Ménard affilié Front National, la suppression d'un poste de directeur des théâtres et de la culture. Jean-Claude Philippot, enfin, ça c'était durant la campagne municipale l'an passé à Reims, qui s'en prenait violemment au FRAC, au Fonds Régional d'Art Contemporain de Champagne-Ardenne, considérant que l'art contemporain est un art de la gauche caviar, que la gauche admire pour se distinguer d'un peuple qu'elle méprise. La question qui tourne en ce moment, aujourd'hui dans l'actualité, Jean-Michel Tobelem, le Front National a-t-il un problème avec la culture ou simplement une perception différente de la culture que d'autres partis politiques finalement? Est-ce que l'art contemporain serait de gauche, de droite, plus que d'extrême droite?
Non, le Front National a assurément un problème avec la culture, parce que ce que vous décrivez là, c'est tout sauf une surprise. On est instruit par les expériences du passé. La fibre qu'agite le Front National, c'est la fibre du populisme. Et évidemment, il est aisé de s'en prendre à la création, à l'art contemporain, d'où la nécessité de conduire un effort immense de diffusion de l'art vivant dans toutes ses dimensions, la musique, le théâtre, les arts plastiques, auprès de la population la plus large. Alors c'est vrai qu'on a cité les FRAC par exemple, il y a peut-être un problème d'incompréhension de la population qui se sent un petit peu éloignée de la création contemporaine, donc c'est pour ça qu'il faut absolument poursuivre la voie de l'éducation, c'est la seule possible à mon sens. Pour le reste, encore une fois, c'est le résultat des élections qu'on pouvait très largement anticiper sur la foi de ce qui s'est passé dans le passé.
Je sens qu'aucun de vous trois ne va défendre la politique culturelle du Front National, donc je vais préciser un peu, Fabrice Bousteau, sur cette affaire d'Hayange en Moselle, avec cette sculpture repeinte à la demande du maire Front National, se pose quand même aussi la question de l'appartenance des œuvres une fois qu'elles ont été vendues, par exemple. C'était le cas ici à une municipalité. Est-ce que l'artiste a encore son mot à dire?
Sur le principe, c'est scandaleux parce que, quel que soit ce qu'on pense de l'œuvre de l'artiste, en l'occurrence, soyons clairs et francs, elle n'est vraiment pas géniale, l'œuvre de cet artiste.
C'est subjectif.
C'est subjectif, mais aussi, il y a des critiques d'art, il y a l'histoire de l'art. Toute œuvre n'est pas équivalente à toutes les autres. Où elle est équivalente, c'est sur le droit moral de l'artiste. Une œuvre, ce n'est pas une poubelle, ce n'est pas un banc public. Considérer que c'est comme du mobilier urbain, c'est nier l'art et c'est nier l'humanité. Et ça, c'est inacceptable de la part d'un maire de gauche, de droite, du Front National. Je remarque, parce que ce qui est intéressant, pendant les élections présidentielles, j'ai analysé précisément le programme du Front National, celui de l'UMP, celui du PS et de tous les partis politiques. Que les déclarations de Marine Le Pen sur et les engagements n'étaient pas du tout atroces et qu'elle était plutôt sur une ligne, entre guillemets, commune. Son principal projet était favoriser l'instruction publique. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a une vraie question à se poser. Non. L'endroit où le Front National, où il y a une incompatibilité par rapport à la culture, c'est la préférence nationale. Aller développer la préférence nationale, c'est absolument tuer l'histoire de l'art en France, parce que préférence nationale, ça veut dire qu'on n'aurait pas accueilli en France Picasso, qu'on n'aurait pas accueilli Dali. Donc toute la grande histoire de l'art française n'aurait pas existé. Et rappelez-vous que l'artiste qui a représenté la France à la Biennale de Venise il y a 2 ans, il s'appelle Henri Salla. Il est albanais qui a pris la nationalité française. Donc l'incompatibilité profonde, elle est celle-ci. Parce que le populisme, aujourd'hui, par rapport à l'art, il existe à gauche, il existe à droite, il existe dans tous les partis politiques et il a toujours existé. En parallèle, on doit se féliciter du fait qu'il n'y a jamais eu autant de visiteurs dans les musées, il n'y a jamais eu autant d'amoureux d'art contemporain et ça va prendre du temps et ce temps, c'est la priorité, et tout le monde le sait, l'éducation artistique, l'engagement du président Hollande, qui pour le moment donné n'est pas tenu. Et ça fait 25 ans que tous les hommes politiques successifs s'engagent à vouloir développer l'éducation artistique. Ils ne le font pas, c'est un leurre, alors qu'on doit former, c'est l'école où on doit former à l'art.
promouvoir, Arnaud Oliveux de chez Arcurial, un art peut-être moins élitiste, puisqu'on parle beaucoup en ce moment de démocratisation aussi de la culture. Est-ce que ça, c'est populiste, forcément?
C'est toujours dangereux, en fait, parce qu'effectivement, on peut vite tomber du côté du populisme. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que sur des secteurs émergents, comme la bande dessinée, comme le street art ou le graffiti, on parle plus d'élitisme ou non. On parle, moi, le terme populaire, je trouve que c'est un terme, justement, populaire contre populisme. Le terme populaire, je trouve que c'est un très joli terme, justement. Comment aujourd'hui permettre à toutes les cultures de se développer, d'être montrées dans les expositions, d'être sur le second marché, peu importe qu'elles soient élitistes ou non. L'important, c'est que les gens s'y intéressent surtout et qu'on soit le plus large possible.
Picasso est populaire aujourd'hui. Il était élitiste hier, on considérait que c'était tout et n'importe quoi dans l'image du grand public français, qu'un enfant pouvait faire la même chose. Aujourd'hui, il faut laisser le temps au temps. La création, c'est l'exigence.
Et puisqu'on parle du statut de l'artiste, une dernière question d'actualité à soulever avec vous, messieurs, on a beaucoup parlé pendant l'été du statut des intermittents. Il y a aujourd'hui un groupe, ils sont environ 650 de plasticiens à s'être réunis via les réseaux sociaux pour défendre l'idée d'une économie solidaire de l'art. Ils veulent attirer notre attention sur l'absence de statut des artistes plasticiens. À vous, Fabrice Bousteau.
Ils ont raison. Je pense que l'écho aussi de la question sur les intermittents montre aujourd'hui qu'il y a une paupérisation aussi des artistes. Il ne faut pas oublier, quand on parle des records du marché, je vais vous citer trois chiffres, seulement 5% des ventes aux enchères dépassent 5000 euros. C'est-à-dire que tous les records dont on parle, l'essentiel de l'art, ça coûte moins de 5000 euros et encore moins que 1000, etc. Aujourd'hui, il y a la moitié des artistes en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, en France, les centres d'art sont totalement paupérisés. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une exposition, un centre d'art réussit plus ou moins à payer un minuscule catalogue et à payer peut-être une partie des frais de production et les honoraires de l'artiste. L'artiste produit sans être payé, contrairement à un intermittent. Donc il y a un vrai problème, on ne paye pas de droit d'exposition aux artistes, il faut le faire. Mais ça veut dire également une réforme profonde aujourd'hui des centres d'art. Moi je suis contre l'idée qu'il y ait 22 centres d'art en France et je pense qu'il faut qu'il y en ait 6 grands régionaux, que les expositions circulent après dans toute la France et que les autres accueillent. Il faut aujourd'hui mutualiser, avoir une politique régionale et nationale forte et mettre les moyens pour pousser les artistes et la création. On est dans une situation aujourd'hui de paupérisation et en plus on demande de plus en plus de missions aux centres d'art et aux responsables artistiques qui sont tous épuisés. Faisons attention à l'épuisement.
Pensez donc au statut de l'artiste et à la rémunération de l'artiste. D'art contemporain, il est encore question là tout de suite à 13h17 sur France Culture avec la chronique de Aude Lavigne. Tout de suite, un acteur majeur de l'art contemporain, une œuvre, un déclic, avec ce midi Bernard Blisten, le directeur du Musée national d'art moderne. C'est à première vue signé Aude Lavigne.
Bernard Blisten est le directeur du Musée national d'art moderne situé dans le centre Georges Pompidou à Paris. Il est diplômé de l'École du Louvre et de l'Institut d'art et d'archéologie. Sa curiosité est large, il connaît et favorise les collages dynamiques entre disciplines pour rendre compte de notre époque. Bernard Blisten répond à notre question : quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain ? À première vue, Bernard Blisten nous répond.
La toute première œuvre, imaginez-vous, je ne sais absolument plus quelle elle a été, puisque je cherche encore à savoir où je l'ai vue et ce qu'elle représentait. Je suppose qu'elle ne représentait rien, et je suppose qu'elle était une œuvre vue chez quelqu'un. Mais vous dire laquelle, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je l'ai cherchée longtemps. J'ai cherché à me souvenir où je l'avais vue, j'ai cherché à me souvenir ce qu'elle pouvait être. Elle n'a peut-être pas du tout existé, je l'ai peut-être rêvé, je l'ai peut-être fantasmé. Mais je crois que la première œuvre qui véritablement m'est fasciné avait tout l'allure d'un gribouillage. Par la suite, j'ai appris que c'était une œuvre de Cy Twombly. Je ne connaissais absolument rien à tout cela et je l'ai vu chez Yvon Lambert dans une galerie à Paris. quel âge avais-je? Moins qu'aujourd'hui, mais pas beaucoup quand même. Et j'ai été absolument fasciné par ce que je voyais, puisque Yvon Lambert m'a raconté une histoire mythologique. Et j'ai désespéré de trouver ce qu'il y avait de mythologique dans cette image. Je ne sais plus de qui on parlait, de quelle figure des temps anciens on parlait. Toujours est-il que cet amas de choses informes, ce graffiti incertain qui me faisait dire que j'étais véritablement là devant quelque chose auquel je ne comprenais rien, m'a absolument séduit.
Avec la parole du galeriste que vous mettez en scène pour regarder une œuvre.
Oui, parce que l'art raconte des histoires et il faut des gens qui sachent vous les raconter. Il y avait bien des textes, des fragments de mots, des graffitis, des punctum, comme aurait dit Roland Barthes quand il en a parlé après. Mais il se trouve qu'il y avait là juste quelque chose qui référait à je ne sais trop qui ou à je ne sais trop quoi. Mais j'étais, comme on dit, subjugué, absolument sous le joug de cette image. Et je me suis dit, c'est ça l'art contemporain, et c'est donc vers ça qu'il faut que j'aille.
Et toute l'actualité du Centre Pompidou, et notamment celle de Bernard Blisten, est à retrouver sur le site internet de l'émission, soit franceculture.fr, à la grande table d'été. Messieurs, vos recommandations avant de se quitter, une exposition à ne pas manquer cet été. On commence avec vous, Fabrice Bousteau, directeur, je le rappelle, de Beaux-Arts Magazine, puisque vous leur consacrez à ces expositions estivales un grand dossier dans votre numéro de juillet.
Juillet, et il est en vente en juillet et en août, même s'il y a un numéro du mois d'août. Écoutez, je dirais deux expositions. On a parlé beaucoup des musées. Le dernier accrochage des collections contemporaines du Centre Pompidou, qui est absolument génial. Je pense que là, justement, on parle de populaire. N'importe qui, même qui ne connaît pas l'art contemporain, va y prendre du plaisir, de la surprise. Ne le ratez pas. Et puis une autre exposition totalement exceptionnelle, qui est l'exposition de la Fondation Lambert à Avignon, dans une ancienne prison, une prison qui est très chargé, le bâtiment est, vous voyez, j'ai la chair de poule rien d'en parler, parce que d'aller dans ce bâtiment, il y a des photographes, il y a beaucoup de gens qui ont été, la douleur des gens, la souffrance est encore présente, elle sointe les murs.
Et, exposition photo. Hein.
Et l'exposition de photos, mais
on
pas simplement.
Les artistes, beaucoup d'artistes qu'il a accompagnés tout au long de leur parcours.
Elle est extraordinaire, intelligente par rapport à les espaces. Franchement, c'est une merveille, ne ratez pas cette exposition et faites-vous plaisir aussi que les collections permanentes des musées, elles sont remixées, c'est la jouissance.
Voilà, Yvon Lambert qui ferme aussi sa galerie à Paris. De votre côté, peut-être aussi une exposition à recommander ou une galerie
Alors, en parallèle justement de la fermeture de la galerie Yvon Lambert, au mois de septembre, il y a l'ancien assistant de Jérôme de Noirmont qui, lui, se lance dans cette aventure qui, on sait, c'est pas toujours facile de se lancer, en particulier en France, d'ouvrir une galerie, c'est toute une aventure. Jérôme Pochon ouvre sa galerie rue Notre-Dame de Nazareth avec un artiste issu justement du milieu urbain qui s'appelle Sambre, qui travaille l'installation sur le terrain avec des assemblages, des choses comme ça. Il déstructure des espaces. Donc c'est une autre vision encore de l'art urbain. On n'est pas dans le graffiti, on est dans autre chose. Et c'est une exposition assez excitante que j'attends et j'incite les gens d'aller voir au mois de septembre.
Voilà, il y a ceux qui attendent impatiemment la rentrée, ceux qui profiteront de toutes les belles expositions à voir aussi cet été pour le plaisir. On vous rappellera quand même les deux belles expositions Cantibes et Le Havre consacre cet été à Nicolas de Staël, trop brièvement évoqué avec l'écrivain Olivier Frébourg au cours d'une de nos grandes tables d'été. Merci beaucoup Fabrice Bousteau. Je rappelle que vous êtes le directeur de Beaux-Arts Magazine et que les Beaux-Arts numéro de juillet et numéro de août sont en kiosque actuellement. Merci à vous Arnaud Oliveux de chez Arcurial et merci enfin à Jean-Michel Taubelem. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Nouvel âge d'or des musées, c'est paru chez Armand Collin. Dans une dizaine de minutes, le pianiste Vincent Koch nous rejoindra autour de la grande table d'été. Après la diffusion de l'entretien que nous a accordé Michael Lonsdale à l'occasion de la sortie du film Maestro de Léa Fazer. Et tout de suite, somme toute, rien que du très classique, mais du beau et de saison avec ce trio en sol mineur d'Ernest Chausson par le trio Élégiaque, François Dumont au piano, Laurent Leflécher au violon et la violoncelliste Virginie Constant, programmée bien sûr par Mathieu Conquet et enregistrée cette année dans les studios de France Culture. Thank you. Le trio élégiaque programmé par Mathieu Conquet. Concert de ce trio, ce sera le 2 août prochain, c'est-à-dire demain, à Musique à l'Empérie, à Salon de Provence. Le disque s'appelle Reber, c'est l'intégrale des trios de Beethoven. 13h28, vous écoutez France Culture.
Jusqu'à 14h, la grande table
d'été.
Olivier Gesbert.
Michael Lonsdale, il est à la fois la valeur sûre et la belle surprise d'un film à l'affiche depuis mercredi dernier. Il s'était rencontré sur le tournage des Amours d'Astrée et de Céladon. Maestro de Léa Fazer rend hommage à l'amitié nouée entre le jeune acteur Jocelyn Quiverin, aujourd'hui décédé, et l'un des maîtres du cinéma français, Éric Rohmer. Un film posthume, un scénario tendre et un récit pas toujours aussi léger qu'il n'y paraît. Une ode en tout cas au cinéma d'auteur où Michael Lonsdale règne en maître, maestro, magistral, rencontre.
Je rencontre des jeunes acteurs pour mon prochain film.
Alors, qui avez-vous joué au théâtre?
J'ai joué Shakespeare.
Surtout, ne lisez pas trop vite.
Arrivé sur le bord du Lignon.
Non, c'est encore un peu rapide, ça.
Vous ne dites rien que la perte de celui...
Ah, mais c'est un vrai rôle.
Un cinéma, mec. Du cinéma, quoi.
Dans des 5 étoiles. Non, tu m'as fait.
l'actualité, c'est ce film, Maestro. Dans le Larousse, ils écrivent « Nom donné à quelqu'un de très habile dans son métier ». Bon.
Oui, moi je dirais que c'est plutôt employé pour la musique. On appelle les chefs maestro. Le film, je ne sais pas pourquoi ils appellent maestro, il faut demander à Léa. Robert est peut-être très habile dans son métier.
Quelle est pour vous la meilleure définition d'un maestro ?
C'est quelqu'un qui fait vivre les choses, hein. C'est un magicien. C'est lui qui va donner forme au son, qui va émouvoir comme ça par la beauté des... Quand c'est des textes, oui, c'est un metteur en onde, comme on dit. Et c'est impressionnant quand c'est juste la voix qui travaille.
Et c'est quand même l'idée d'une personne qui est au sommet de son art, non, le maestro ?
Oui, je crois que oui, les maîtres, oui, comment les peintres se font appeler maîtres, enfin certains, pas tous. Quand on disait ça à Chagall, il disait non, 1m70.
Vous me voyez venir, Michael Lonsdale, non ?
Non, oui.
Quels sont vos maestros à vous ?
C'est Tania Balachowa qui m'a fait être comédien, qui m'a laissé, qui m'a fait naître dans ce qu'il fallait pour être comédien. Merveilleuse femme qui aimait ses élèves d'amour. Inoubliable, je lui dois tout à Tania Balachowa. Elle me fait renaître, sortie de mon inhibition, de ma timidité, tout ça.
C'est elle qui vous a appris le théâtre, qui vous a donné vos premiers cours à votre retour en France, parce que vous étiez parti vivre un long moment au Maroc. Vous êtes revenu en France, c'était quoi, en 49 ?
En 39, on est parti pour 6 mois, on est resté 10 ans, bloqué par la guerre. Avec beaucoup de complications, mon père anglais a été arrêté avec tous les Anglais du Maroc pour être mis dans un camp. Alors j'ai vécu des choses très mouvementées, comme ça, tout le temps, à bouger, à changer de lieu. Puis après, mes parents sont séparés à la fin de la guerre et je suis parti dans la famille française, voilà. Je voulais être comédien, mais je n'osais pas aller dans un cours, je n'osais rien faire. Et un jour, il y a une annonce dans un journal qui s'appelait « Art ». Voulez-vous savoir si vous êtes comédien ? J'ai mordu à l'hameçon. Mais c'était une escroquerie, ce cours. Oui, c'était un coup de filet pour ramasser des gens. Et le directeur de cette école était un fou. Il nous fait faire une première improvisation qui consistait à aller chercher son enfant mort dans un camp de concentration. Alors la jeune élève qui a accepté de faire ça a commencé à chercher avec les yeux hagards. Puis tout d'un coup, elle s'est effondrée, elle a une crise de nerfs. Puis ça a hurlé comme ça. On ne sait plus quoi faire. On ne donne pas un thème comme ça à quelqu'un qui débute, mais c'est de la folie. Enfin, il faut faire des mois de... Faites le vent, faites la pluie, faites la mer, le soleil, mais pas un thème d'un enfant mort. Je ne sais pas ce qu'il y avait eu dans sa famille, j'en sais rien, dans sa vie. Alors moi, je suis parti de ce cours. J'ai demandé à l'aumônier des artistes où aller. C'est lui qui m'a envoyé chez Tania, oui.
Tania Balachowa, qu'est-ce qu'elle avait d'une maestra ?
Pédagogue, elle a dit celui-là, parce qu'on choisissait les scènes qu'on voulait passer. Moi, je prenais toujours Fedot, j'aimais bien le rire, et puis Tchekhov, c'était des choses de sentiment, comme ça. Et un jour, elle me dit, j'aimerais bien vous voir, vous énerver un peu, parce que vous êtes toujours aimable, gentil, tout ça, mais il faudra aborder d'autres propos, d'autres sujets dans le théâtre. Prenez-moi la première scène de Misanthrope, Alceste qui râle parce que Célimène l'a envoyé paître. Et Philinte, le grand ami, qui vient, qu'est-ce donc avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie, mais encore, dites-moi, laissez-moi, vous dis-je. Et voilà, alors je joue ça, bon, ça ne marchait pas. Elle me dit, il faudrait vous énerver un petit peu quand même, vous n'êtes pas content. Vous êtes contrarié, enfin quelque chose, vous voyez. Oui, bon, je cherche, j'essaie de refaire, ça ne donnait rien. Alors je passe un peu la chose parce que ça a recommencé 5-6 fois. À chaque fois, la dose montait. Après, il était très fâché. Après, il était furieux. Après, il était hors de lui. Et moi, je commençais à transpirer. Je ne pouvais pas, la violence. J'avais horreur de ça. Et alors, ne voyant rien venir, elle a pris les grands moyens. Et elle m'a dit, si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je ne peux pas vous garder dans le cours. Ça ne sert à rien. Alors là, j'ai cru m'évanouir de chagrin parce que c'était me mettre dehors, quoi, je veux dire. Alors devant cette menace, on a fait encore un essai, le copain est sorti, il est revenu, qu'est-ce donc qu'avez-vous ? J'ai attrapé une chaise comme ça, je l'ai mise au-dessus de ma tête et je l'ai jetée de toutes mes forces, elle s'est cassée, j'ai hurlé, laissez-moi, je vous prie. Alors elle m'a dit, vous voyez que vous pouvez être violent, c'est bien ça. J'avais cassé la chaise en plus. Il fallait, avec moi, me menacer.
C'est vrai qu'on continue à vous voir comme une force tranquille. La réalisatrice Léa Fazer a choisi donc ce titre, Maestro, en pensant à Eric Rohmer, auquel ce film rend hommage et dans lequel vous incarnez donc Cédric Rohwer, figure sacrée et consacrée du cinéma d'auteur, cinéaste assez nouvelle vague dont les films s'intègrent difficilement dans l'époque actuelle, à la marge, très à la marge. Et vous avez, vous, tourné dans la vraie vie avec François Truffaut, avec Louis Malle.
Ah oui, ça, alors là, ça c'est du solide. La mariée en noir, oui.
Et baiser volé ?
Baiser volé, alors là, oui, là, j'ai commencé à déployer. Mais ce que j'aimais, c'était l'improvisation. La scène où M. Tabar va dans l'agence de détective pour essayer de savoir pourquoi ses employés ne l'aiment pas.
Je sens que je suis détesté. Et je ne sais pas par qui. Je ne sais pas par qui. Je sens que c'est dans l'air quand je sors en public, au restaurant, au cinéma, ou à Instagram quand je vais voir la boxe. Je ne sais pas si ma concierge me déteste, mais en fait, quand je lui parle, elle hausse les épaules. Et ma femme me rit tout le temps, sauf quand je raconte quelque chose de drôle.
Il m'avait donné le texte 2 jours avant, je n'ai pas le temps d'apprendre ça. Mais tu improviseras puisque tu aimes ça. Alors j'ai improvisé à moitié la séance où il explique dans le magasin pourquoi ce qui ne va pas. Et l'autre dit, je vais vous envoyer un périscope. On a eu un plaisir à faire ce film. On a ri. C'était vraiment du bonheur. Moi qui aimais tellement Delphine en plus. Puis Léo était gentil, était sympathique à l'époque. Je faisais pas d'histoire.
À l'époque ?
Oui. Bah après, il est devenu tellement... Un double de Truffaut que ça a mal tourné, oui. Enfin,
Louis Malle.
Oh, j'ai fait une banouille chez lui, juste. Oui, Souffle le cœur, oui, où je jouais un prêtre. Ah bah tiens, celui-là, je l'avais oublié, oui. Dans un pensionnat comme ça, où il aimait bien frotter les genoux de ses élèves.
Et dites-moi, vous êtes très musclé ? Faites de la natation ?
Oui, mon père.
Vous êtes beaucoup développé depuis un an. Je parie que je peux plus faire le tour de votre cuisse avec mes 2 mains. Ah, vous voyez, j'y arrive pas. Je vous félicite. Mas sana in corpore sano.
Est-ce que je peux retourner en gymnastique, mon père ?
C'est un film terrible, non ? C'est une femme qui apprend à son fils à l'amour. Une mère. Oh, ça avait fait scandale, le film. Tiens, je l'avais oublié, ce prêtre-là.
Mais vous avez jamais tourné avec Rohmer ?
Non, mais il m'a jamais demandé.
Mais là, vous incarnez Rohmer.
Oui, mais c'est pas lui, vraiment. C'est un à côté, oui.
Donc on peut dire aujourd'hui qu'avec ce film, indirectement, c'est fait, vous avez joué un peu avec Rohmer, ou joué un peu du Rohmer ?
Oui, par-ci, par-là, mais sans plus. Hein, je veux dire, je ne connais pas assez l'œuvre de Rohmer pour savoir ce qui aurait été emprunté à ses films. Oui, donc je demande à Léa, mais je pense pas. Non, on savait qu'il se comportait comme ça. C'était très difficile sur le texte. Et... Oui.
Votre personnage, Cédric Rohwer, est d'une bienveillance. C'est pas un maître oui. Difficile, c'est oui. Un homme extrêmement bienveillant.
Je ne sais pas comment était Rohwer sur ce tournage. Je n'avais aucun acteur que je connaissais qui tournait avec lui, donc je n'ai pas su comment ça fonctionnait.
Et dans toutes ces personnes, ces personnalités, ces cinéastes que vous avez rencontrés, avec qui vous avez travaillé, est-ce qu'il y avait des maestros pour vous ?
Oui, les grands Américains étaient des maestros. Fred Zinman, oui, était un maestro. Un grand patron, quoi, je veux dire. Et puis Joseph Losey aussi, et puis James Ivory aussi. C'était des gens formidables qui aimaient les comédiens beaucoup. Orson Welles aussi. Donc là, on est content parce que ça, on a des fleurs fragiles. Là, il suffit qu'on nous souffle un peu dessus pour qu'il n'y ait plus personne.
Je vous évoque le mot de maestro, vous me citez des cinéastes américains. Vous parlez pas des cinéastes français avec lesquels vous avez tourné.
J'ai adoré tourner Renoir, j'aimais beaucoup. Oh, quel dommage, il m'a appelé sur le tard, comme ça il m'a dit, monsieur Lourdal, voilà, je fais un petit court-métrage, j'étais tellement heureux que vous veniez avec moi. Le lendemain, je l'ai rappelé pour lui dire que je ne pouvais pas, malheureusement, que je n'étais pas libre. Il m'a dit, mais vous êtes qui au téléphone? Il perdait la tête. C'est un grand bonhomme. Ça, c'est un maestro. C'est très important, le management, comme on dit maintenant, d'une troupe, hein, il faut savoir dire ça pour faire plaisir à un tel, pour qu'il soit éveillé, avec envie de bien faire. C'est un très beau métier d'être maestro.
Et Marguerite Duras en était une aussi ou pas?
C'était une maestroesse, elle. Avec elle, c'était de l'ordre du... C'est impossible d'en parler. C'était au-delà des explications, c'était un rapport d'amitié, de connivence comme ça, de plaisir, mais presque enfantin. J'ai été aussi heureux avec Marguerite que quand on prenait la voiture et qu'on faisait tous les parkings de Paris, et en poussant des cris dessus, comme des enfants. Alors, jouer ces textes, c'était sous une mise en scène de Claude Régis, c'était impressionnant. Hein. La bande anglaise avec Madeleine Renaud, oh là là. Inoubliable. On a passé des soirées magiques. Là, c'est impressionnant le théâtre.
Elle avait un mouchoir dessus les yeux, un bras sous la tête et l'autre étendu le long de la cuisse. Oh, quelle vue fut celle-ci pour ses ladons! Il fut tellement surpris qu'il demeura immobile. Mais tandis qu'il était en cette agréable contemplation, sa pensée lui disait « Retire-toi, as-tu déjà oublié la défense qui t'a été faite ?» Mais il ne pouvait s'empêcher de s'avancer.
Dans ce film, Maestro, vous jouez ou vous tournez Les Amours d'Astrée et de Céladon, qui était vraiment un film en plus d'Éric Rohmer, hein, qui a été également vraiment présenté à la Mostra de Venise en 2007.
Oui,
et il y a une chose, je crois que ça n'a pas eu de prix.
Oui, oui.
Vous comprenez pourquoi? Le décalage avec l'époque, là encore, peut-être, non?
Je ne sais pas, je ne connais pas assez son œuvre. Le genou de Claire, mais je crois que je l'ai oublié. Je l'ai vu, mais j'ai oublié.
Et Les Amours d'Astrée et de Céladon, vous ne l'avez pas regardé?
Oh non.
Oh non?
Non, non.
Mais le texte d'Urfé, vous l'avez lu?
Non. Mais non, il n'y a pas besoin de le dire, pourquoi faire? Non, je m'ennuie un peu. Enfin, il ne faut pas dire ça. Ça ne m'intéressait pas trop, voilà.
Mais justement, quand vous dites que vous aimiez ce personnage, à la fois poétique, bienveillant... On peut être encore une figure comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être un homme ou une femme qui passons dans la vie des autres, un peu comme un ange, quelque chose d'un peu...
Époque. Mais il y a des gens qui vivent pas leur époque, qui vivent l'époque précédente, hein, jusqu'à leur fin. Ils sont accrochés à leurs habitudes, ils n'ont pas envie de changer.
Et pourquoi ils devraient changer?
Ben non, ils ne sont pas obligés, mais pour ne pas être trop seul et trop triste sur le passé. Beaucoup de ces vieilles personnes comme ça, ah, de mon temps, c'était pas comme ça.
Et vous, Michael Lonsdale, par rapport à ce personnage que vous incarnez, vous êtes comme ça aussi? Vous traversez la vie de manière aérienne?
Oui, il est content de faire ce film. Et puis, les indications sont très précises pour les acteurs, les actrices, tout ça. Non, je crois qu'il est sereinement content, oui.
Mais vous, Michael Lonsdale, dans votre vie? Est-ce que vous êtes comme ce personnage? Est-ce que vous vous sentez à contre-temps quelque part? À contre-temps avec cette époque? Sans nostalgie pour autant du passé?
Il y a des choses où je m'arrête. J'ai pas envie d'Internet, j'ai pas envie de tout ça. J'ai pas envie d'iPhone, j'ai pas envie de tous ces instruments qui ont l'air de créer une vie virtuelle et pas vraie.
Quel quelques notes d'India Song pour terminer. Michael Lonsdale en double de Eric Rohmer à l'affiche de Maestro de Léa Fraser, un film en salle à voir jusqu'à la fin de l'été. Lui sera notre dernier invité de cette moitié d'été passé à vos côtés. Il est venu seul, même si toute l'année il vit à Troyes. Ses complices sont le violoncelliste Raphaël Pidou et le violoniste Jean-Marc Philips Varjabédian. Lui est pianiste. Ensemble, ils forment un trio de musique de chambre à la renommée internationale, aux 27 ans d'existence, qui tient son nom d'une fantaisie pour piano de Schubert, le trio Wanderer. Si exigeante que Schubert pensait que le diable seul devrait la jouer, Das Zeug soll der Teufel spielen. Ainsi commence le quatrième mouvement, le plus virtuose de la fantaisie en ut majeur pour piano, dite Wanderer de Schubert. Au piano, le pianiste Léon Fleischer, dont vous avez suivi une masterclass, cher Vincent Koch. Il a osé, lui, défier le diable. Et vous, qu'en est-il? Est-ce que vous avez relevé le pari? Bonjour d'abord.
Bonjour. Oui, parce que quand j'étais étudiant, j'ai même passé mon prix au Conservatoire de Paris avec cette pièce et j'ai travaillé la bande de fantasy avec Léon Fleischer.
Mais on la retrouve sur aucun de vos albums du
trio. Non, parce que c'est du piano solo et les albums sont presque tous de la musique de chambre.
Aujourd'hui, c'est vous qui enseignez en masterclass ou à l'année à la Haute École de Musique de Lausanne. Qu'est-ce que vous tentez de transmettre à vos élèves?
Ben, pour reprendre ce que disait justement Léon Fleischer, je crois que la chose la plus importante dans la vie d'un musicien, c'est l'expérience. Et je suis là-bas pour transmettre mon expérience et ce que j'ai reçu de mes maîtres et ce que ma vie musicale, la vie personnelle a rajouté à tout ça. J'essaie de transmettre ça à la nouvelle génération, aux étudiants que je rencontre.
Et vous dites qu'il ne faut pas toujours chercher de la profondeur dans la musique, que parfois la virtuosité suffit à la rendre belle. Vous confirmez?
Oui, il y a même un livre de Jean Kelevitch sur la virtuosité chez Liszt. Et oui, il montre que la virtuosité n'est pas quelque chose de vain toujours. Mais disons qu'il y a la profondeur. Qu'est-ce que c'est la profondeur? Mais dans la musique, ça décrit toute la vie dans son entier. Donc il y a à la fois, il peut y avoir de la joie, de la gaieté, de l'humour, de même quelquefois de la vulgarité, de l'insouciance. Et pas toujours du drame et des interrogations métaphysiques. Parce que la vie, c'est beaucoup plus complexe. C'est tout ça qui fait la complexité de la vie, tous ces éléments. Donc la musique ne fait que peindre, je crois, est un reflet de la vie.
Et alors, dans cette fantaisie Wanderer, on peut aussi la jouer avec un peu de légèreté ou c'est vraiment techniquement si difficile qu'il faut prendre ça très au sérieux?
C'est pas une œuvre légère musicalement, même si le final est quelque chose de très triomphant et heureux. Mais disons que c'est comme toujours chez Schubert, on est toujours à la... C'est Schnabel qui disait ça, Schubert, on ne sait jamais s'il pleure ou s'il rit. Même Schubert a écrit un texte qui s'appelle « Mon rêve » où il dit « Quand je veux chanter l'amour, c'est la douleur qui arrive et quand je veux chanter la douleur, c'est l'amour qui revient. » Donc il est toujours, on ne sait jamais s'il veut, il est toujours un peu à cheval entre les sentiments. Donc dans cette fantaisie, on retrouve les mêmes sentiments, une espèce de joie et d'énergie incroyable et puis dans tout le mouvement lent, une profondeur et un drame qui se noue mais qui va évoluer. Schubert est toujours, c'est ce qui est particularité du Wanderer, c'est d'être toujours en mouvement, sans savoir où il va, mais il est toujours, il va quelque part, de la vie à la mort, mais il est toujours en recherche de quelque chose, même si on ne sait pas ce qu'on cherche.
C'est étonnant, Vincent Koch, parce qu'on parle souvent des mains du pianiste, on les imagine toujours très fines. Vous avez des mains assez fortes.
Oui, j'ai des mains. Oui, j'ai des mains
Ça demande du muscle, finalement, de jouer au piano?
Non, c'est une configuration des mains. Mais disons que c'est vrai qu'on a toujours l'image peut-être des mains du moule, des mains de Chopin, qui avaient des mains très, très, très longues, très fines, très élastiques. Mais si vous prenez les mains de Richter, par exemple, c'était des sacrés abattoirs, comme on dit, et... très très grande, beaucoup plus grande que les miennes. Non, je crois que où il y a des mains toutes petites, quelqu'un comme Maria João Pires, qui une artiste extraordinaire. Elle a des mains minuscules avec un pouce qui fait la moitié du mien. Elle a fait à peine une octave. Et pourtant, c'est une pianiste absolument prodigieuse. Donc, je crois qu'il n'y a pas de... C'est la façon dont on s'en sert qui compte le plus.
Oui, j'imagine. Des mains moulées ou des mains filmées. Quand voilà. on pense au film, simplement au pianiste, hein, voilà. par exemple, c'est vrai que ce sont toujours les mains et uniquement quasiment qui sont filmées. Oui. Rarement les expressions du visage du pianiste et encore moins ses pieds qui servent aussi. Hein.
Ah, les pieds, c'est très, très important. Parce qu'on a sur le piano les pédales. Et c'est toute une alchimie, c'est une magie la pédale. C'est un peu le vibrato du pianiste. C'est ce qui va faire mettre l'instrument en résonance et colorer en fait le jeu du pianiste.
Vanderer, Vincent Koch, comme voyageur. Cet été encore, vous prenez les routes du monde. Un mois de juillet entre la France, le Mexique et le Danemark. Vous serez fin août en Allemagne et en Suisse après avoir sillonné l'Hexagone et les festivals dont la Roque d'Anthéron pour une semaine de masterclass et un concert le samedi 9. Alors au programme de ce concert, il y aura du Tchaïkovski, du Rachmaninov et...
Du Arensky.
Et du Arensky. Tchaïkovski, Arensky, qu'on retrouve sur votre dernier album.
Oui, tout à fait.
Pourquoi ce choix-là ?
Parce que c'est... D'abord, premièrement, de la musique magnifique, et c'est des musiques qui sont toutes les trois liées. C'est-à-dire que ce sont des œuvres de la même période de composition, à peu près, donc la deuxième moitié du 19e siècle. Et toutes les trois sont des œuvres élégiaques. Le trio d'Arensky est une œuvre qui a été écrite en souvenir de la mort d'un compositeur qui s'appelle Davidov. Le trio de Rachmaninov, en tout cas celui qu'on va jouer le 9, c'est la première version du grand trio élégiaque qui lui-même écrit en la mémoire de Tchaïkovski. Et le trio de Tchaïkovski a été écrit à la mémoire de la mort de l'ami Tchaïkovski qui s'appelait un grand pianiste et compositeur, Nicolas Rubinstein.
On va écouter un extrait de votre Tchaïkovski. On est parti un peu fort.
Oui, parce que c'est tiré d'un ensemble de variations. Et en fait, c'est vrai que celle-là n'est pas la plus inspirée de Tchaïkovski, mais ces variations ont un sens dans leur ensemble. C'est-à-dire que dans ces variations, il raconte un petit peu les moments de la vie de Nicolas Rubinstein. Il y a donc une valse, une mazurka, une boîte à musique, tout un tas d'effets, donc une fugue pour les années d'études. Donc, toutes ces variations ont un sens entre elles. Celle-ci, disons, c'est pas quelque chose, c'est pas la pièce qu'on, disons, inoubliable dans la production de Tchaïkovski.
Tchaïkovski, justement, est plus connu aussi pour ses compositions orchestrales, hein, ses opéras, ses symphonies, ses concertos. Pourquoi sa musique de chambre est moins connue ?
Disons que la production est inégale. Ce trio est très connu. C'est un des chevaux, c'est un cheval de bataille du répertoire de musique de chambre.
Non, mais c'est vrai que quand on pense musique de chambre, on ne pense pas automatiquement à Tchaïkovski.
Non, sauf les Russes, parce que ça a vraiment leur tube aux musiciens russes. Mais je ne sais pas quelle est la raison, parce que peut-être Tchaïkovski, comme Rachmaninov quelquefois, il y a toujours on n'a pas la même estime que des gens comme Brahms, Schubert, Schumann, etc. Mais c'est quand même une œuvre très jouée. Il y a le souvenir de Florence aussi. Mais c'est vrai que dans la production de Tchaïkovski, les quatuors à cordes, tous ne sont pas des chefs-d'œuvre. Il y a des fois des longueurs, même dans le trio. D'ailleurs, Tchaïkovski a détesté écrire ce trio. Il n'y arrivait pas parce que l'idée de mélanger le piano avec les cordes, et pourtant il arrivait à faire une œuvre qui est symphonique parce qu'il a fait quand même une symphonie à trois. Dans la dimension, c'est une œuvre qui dure 45 minutes. C'est un des trios les plus longs du répertoire. Donc on retrouve quand même l'aspect symphonique dans son trio. Très orchestral.
Dans le terme même de musique de chambre, il y a quand même l'idée d'un répertoire plus intimiste, parfois même un peu désuet. Peu de compositeurs contemporains hein, s'en emparent, lui préférant souvent les quatuors à cordes. Là encore, pourquoi ?
Alors, le trio avec piano, plus que la musique de chambre, c'est vraiment une forme qui est liée au développement du piano au XIXe siècle. Donc, ça a commencé avec Haydn, Mozart, les premiers, et puis l'apogée, la première œuvre parfaite d'équilibre, c'est les plus 70 de Beethoven. Et c'est vraiment quelque chose qui est lié... disons au piano. Et les pianistes, les compositeurs pardon, du 19e siècle étaient presque tous pianistes. Et le trio, plus que le quatuor à cordes, c'était aussi des œuvres de concert, donc où les compositeurs, Mendelssohn, Brahms, etc., tous ces gens-là, Beethoven bien sûr, se produisaient sur scène. Donc c'est vraiment lié à ça. Et c'est vrai qu'au 20e siècle, comme le trio de Ravel, qui est un des chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, mais la musique contemporaine, il y a eu un trou dans les années 60, toute la période après-guerre, sur le répertoire du trio, et depuis quelques années, quand même, il y a un renouveau dans l'écriture. Il y a nous, on a fait deux créations, Thierry Esquèche et Bruno Mantovani, mais il y a Maurizio Kagel, des gens comme ça, qui ont écrit pas mal pour le trio. Il y a un renouveau. Je ne crois pas que ça soit du tout une forme...
Vous avez quand même pas mal de propositions de compositeurs.
Oui, on a créé cette année aussi un triple concerto de Philippe Hersant.
Et vous ne les refusez pas toutes?
Non, on en fait très peu parce que des créations, c'est-à-dire qu'on a cette idée de si on fait une création, c'est pour la jouer. C'est pas juste pour faire une création, la jouer une fois et, ou deux, mais le trio de Bruno Mantovani, on l'a joué peut-être 30 fois, et même chose pour le Esquèche. Donc quand on s'attache à faire une création, c'est pour défendre l'œuvre et la mettre au répertoire au même titre qu'un trio de Brahms ou un trio de Schumann. Je trouve pas très intéressant de faire des créations juste pour jouer une nouvelle œuvre une fois et puis l'oublier. L'important, c'est de faire vivre la musique et montrer que c'est juste une œuvre comme une autre.
Et dans cette petite entreprise justement de réhabilitation à laquelle vous vous attelez au quotidien avec votre trio Vandereur, Vincent Koch, est-ce que vous avez trouvé votre public, un public musique de chambre entre guillemets, qui serait assez universel ou est-ce que c'est une musique qui parle plus à certaines cultures, à certains pays ?
Je crois que cette musique, le trio est en fait une musique assez universelle dans le monde, dans le public de la musique classique. Bien sûr, il y a des pays où la musique classique est moins présente. C'est vrai qu'en Afrique, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de concerts, il n'y a pas de tradition musicale. Mais en Asie, il y a des pays qui se sont mis, parce que le Japon maintenant fait partie du monde musical classique. La Chine est en train d'y arriver. Donc... les publics sont très larges. Et le trio, je pense même, est une forme de musique très grand public, puisqu'il y a toujours cet aspect instrumental, virtuose. C'est une sorte de... Je dis toujours ça, c'est un peu une trinité profane. C'est trois solistes dans un ensemble indissociable. L'aspect soliste est aussi important que l'aspect ensemble. On ne peut pas séparer les deux. Si on n'est qu'un ensemble homogène, il manque quelque chose. Si on n'est que trois solistes séparés, il manque quelque chose. C'est cette espèce d'alchimie qui fait la particularité du trio. Et donc, il y a un côté quand même, je crois, toujours instrumental, brillant comme un soliste de récital. Et en même temps, il y a la profondeur de la musique de chambre. C'est ce qui fait un peu la particularité du trio et la beauté de ce répertoire.
Et alors, ce midi, vous l'avez entendu, on évoquait avec Michael Lonsdale les figures des maestros. Alors, pour le cinéma, le concernant, on suit un peu ce fil depuis tout à l'heure. Vous avez joué sous la direction de l'Américain, Yehudi Menuhin, ou encore du Britannique, Christopher Hogwood. Vous vénérez Arthur Schnabel, Brahms, Forêt. On citait tout à l'heure aussi des grands pianistes comme Léon Fleischer. Vos maîtres, à vous, ils sont plutôt du côté de ceux qui vous ont appris, tout appris, ou aider à pratiquer, ou plutôt ceux qui ont composé les plus belles musiques de chambre ou écrit des trios.
Les gens essentiels, ce sont les compositeurs. Nous, on n'est rien, on est des comédiens, les musiciens, on est des acteurs. Donc, on dit un texte. Et une des personnalités dont que vous n'avez pas cité, mais qui m'a marqué le plus, c'était Norman Brannin, le premier violon du Quatuor Amadeus, avec qui on a beaucoup travaillé. C'est ce qu'il disait, on est là pour servir... des compositeurs qui sont voilà, les génies absolus. Nous, on va passer, mais Schubert, Beethoven, ils restent. Donc ça, c'est ces gens-là qui sont nos maîtres à penser, je pense, et qu'on doit servir. Après, il y a des gens, des artistes qu'on a rencontrés, qu'on peut entendre grâce aux disques, qui nous ont marqués et qui nous marqueront toujours. Et ça, c'est très, très important. Et je pense qu'on on est un peu des éponges. Il faut prendre un peu à droite, à gauche, une phrase qu'on va entendre, un mot. Des fois, c'est très peu de choses qui peuvent marquer sur une vie. Et puis aussi, simplement les gens qui nous ont formés, c'est très très important parce qu'on les oublie souvent parce qu'on a tellement eu l'habitude de travailler avec eux, des gens, quand j'étais au conservatoire avec Dominique Merlet, c'est quelqu'un qui m'a formé, donc à qui je dois beaucoup. Donc c'est tout est important. C'est ce qui fait l'expérience de, voilà, en général. C'est tous ces éléments qui viennent s'ajouter, qui forment une vie, qui forment un musicien.
Vincent Cox, c'est déjà l'heure de se quitter, mais j'étais en train de rechercher les dates de vos concerts ou des festivals par lesquels vous allez passer. On a parlé tout à l'heure de la Rock d'Anteron, mais il y aura bien sûr aussi d'abord et des mois Bourg-Madame, le 5 août et le 7 août, et puis également un passage par Hérisson au Festival de musique en Bourbonnais. C'est ce week-end.
Dimanche.
Oui, dimanche. On y arrive bientôt. Et merci beaucoup mille fois à vous.
Merci bien.
Très bon mois d'août. Voyagez bien et faites-nous voyager avec vos musiques. Toutes les infos vous concernant et concernant les autres invités de cette grande table d'été sont à retrouver à la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires, podcaster cette émission ou la réécouter. Je vous rappelle qu'à partir de lundi midi 45, vous retrouverez Martin Kenen aux manettes de la grande table d'été avec toujours Michel-Ange Vinti à la réalisation de cette émission. Très bonnes vacances à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission tout au long du mois de juillet. Un grand merci à la précieuse Clémence Marie. Merci beaucoup à Claudia Prolongeau et à Adrien Nazelli. Les attachés de production de La Grande Table étaient Claire Poinsignon et Daphné Abgral. Vous les retrouverez dès la rentrée sur d'autres émissions. À la technique ce midi, Floriane Le Goff et Jean Guilin-Meige. Merci à tous. Très belle journée, très bon mois d'août. À très bientôt.